Mais un grand merci d'abord de m'avoir convié à venir vous rencontrer. On va parler du service national sous bien des aspects. Le service national, pour la plupart d'entre nous, correspond au service militaire tel qu'il a été mis en œuvre en France à partir de la Révolution jusqu'à 1995. Alors, il faut peut-être faire un tout petit retour en arrière pour comprendre les évolutions et surtout les interrogations. Le service national a eu comme première formule le service militaire. Il a été créé à l'occasion de la Révolution qui était menacée par un certain nombre de pays et qu'à partir de ce moment-là, on a renoncé à ce qu'on appelle les armées d'occasion, puisque la royauté avait des armées qu'elle payait, qu'elle achetait, c'était les Suisses d'un côté, c'était les Gascons de l'autre. Elle n'avait pas en fait d'armée nationale au sens propre du terme, tel que on les a vus en fait mises en place à partir de la Révolution française et jusqu'à des périodes récentes. Donc le service national a été mis en place et le service militaire correspondait à un besoin, parce que c'était les guerres à l'époque se gagnaient ou se perdaient en fonction du nombre de personnes qui y étaient investies et qui pouvaient faire barrage à l'envahisseur ou à la personne qui voulait perturber la vie du pays. Et on disait toujours que c'était en fait les personnes qui, avec leur tenue, pouvaient repousser ou pouvaient conquérir un territoire. Donc ceci, ça a correspondu à une période qui est allée jusqu'à 1940, puisqu'on a vu la mécanisation de l'armée, et c'est le grand ouvrage du général de Gaulle entre les deux guerres, qui a soulevé le problème d'ailleurs, puisqu'il a dit, c'est là lorsqu'il a parlé de l'armée de métier dans un de ses ouvrages, il a montré que l'évolution des choses faisait que le nombre de soldats ou le nombre de personnes engagées n'était plus suffisant compte tenu de la technicité qui apparaissait dans l'organisation des armées. Et le problème de la réforme de l'armée, la réforme du service national, la réforme du service militaire, a été posée dès ces années-là. Et on a vu des débats dans un certain nombre de cénacles bien fermés, mais il y a eu des discussions entre un certain nombre de responsables militaires, entre des responsables politiques, qui se disaient, est-ce qu'on va garder le système de la conscription pour pouvoir continuer à faire face à nos défis tels que les défis militaires ou les défis ensuite révolutionnaires qui pouvaient apparaître et qui sont apparus après 1945 dans un certain nombre de pays. Donc le débat a eu lieu, il n'a pas été clos, puisque d'abord même il n'a même pas donné lieu à des conclusions très positives, puisque les propositions qu'avaient fait un certain nombre de militaires, dont le général de Gaulle, n'ont pas été suivies, et ce qui explique, c'est-à-dire l'infériorité de l'armée française par rapport aux armées allemandes, car celle-ci s'était équipée avec du matériel tout à fait moderne, alors que l'armée française avait encore un matériel qui était traditionnel et un peu caduc dans certains cas. Et au lendemain de la guerre de 40-45, le problème a été reposé. Et même, pourquoi n'a-t-il pas donné tout de suite solution? Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, il y a eu besoin en fait de militaires pour pouvoir intervenir d'une part dans la guerre d'Indochine et ensuite et surtout dans la guerre d'Algérie. Vous savez que pour la guerre d'Indochine, c'était des engagés qui allaient combattre. Pour ce qui était de la guerre d'Algérie, ça a été en fait une véritable mobilisation, puisque toutes les classes d'âge sont allées se battre en Algérie, même si le conflit algérien n'était pas considéré comme une guerre au sens propre du terme. C'était un conflit qui avait obligé la mobilisation d'un certain nombre de classes d'âge pour pouvoir aller faire du maintien de l'ordre et de la lutte contre la rébellion, puisque c'était considéré ainsi à l'époque. 58 est arrivé. À ce moment-là, un certain nombre de personnes se sont demandé si le général de Gaulle n'allait pas, suite à ses réflexions d'avant-guerre, donc l'armée de métier, suite à un certain nombre de discours ou de propos qu'il avait tenus, n'allait pas engager une réforme du service militaire. Il y a eu un certain nombre de réformes sur lesquelles je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, dont celle de l'affectation rapprochée. Ça a beaucoup modifié le service militaire. C'est Michel Debré, lorsqu'il était ministre de la Défense, qui a porté cette réforme-là. Il y a aussi est apparue la possibilité de faire son service national en coopération, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir d'aller dans des pays en voie de développement pour pouvoir y apporter des compétences, et ça permettait à ce moment-là d'avoir une diversification de l'engagement du service national. Il y avait le service militaire et le service de coopération. Et puis, petit à petit, s'est posé la question de savoir que faire, en fait, d'un certain nombre de personnes, parce que l'armée avait de moins en moins besoin, compte tenu de sa modernisation, de moins en moins besoin d'un certain nombre de soldats. J'ai eu, en fait, la charge, et sinon l'honneur, de porter cette réforme-là en 1995, sur la demande du président de la République, Jacques Chirac. Alors, il faut que je vous fasse un aveu. Lorsque j'ai pris le ministère, j'étais plutôt favorable à la poursuite de la conscription, pour des raisons que je vais vous exposer. Et c'est après avoir fait une étude assez approfondie sur la demande du président de la République que je suis arrivé à la conclusion qu'il était non seulement souhaitable, mais urgent de supprimer ou de suspendre le service militaire et d'aller vers un autre système d'engagement civique de la part des citoyens. Alors, pourquoi, en fait, j'étais, moi, favorable à la conscription? Parce que j'étais sensible à des arguments qui, aujourd'hui, sont encore utilisés, qui étaient de dire le service national ou le service militaire servait au brassage de la population. Et c'était ainsi que les bourgeois rencontraient le peuple, que le peuple rural rencontrait le peuple urbain, que les différents milieux pouvaient se mêler, qu'on pouvait s'enrichir les uns les autres au niveau du brassage social tel que ceci avait existé durant les années précédentes ou durant les décennies précédentes. C'était une argumentation qui n'était pas complètement fausse, puisque jusqu'aux années 58-60, il y avait encore ce brassage, surtout à cause de la mobilisation qui a eu lieu au moment du conflit algérien. Ça, c'était le premier argument qui nous amenait à dire il ne faut pas supprimer le service national, il faut peut-être le moderniser, il faut peut-être le modifier, mais il faut garder la conscription. Le deuxième argument qui était avancé aussi, c'était de dire cette période de service national permettait à un certain nombre de jeunes d'acquérir des compétences dans l'armée qui pouvaient ensuite être mises en œuvre dans leur vie professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui, au cours de leur service militaire ou de leur service national, ont acquis des compétences et qu'ils ont d'ailleurs transformées ensuite en compétences même certifiées, soit dans le domaine de la mécanique, soit dans le domaine dans des domaines divers et variés, et que c'était là un lieu d'apprentissage qui n'était pas totalement inutile. Et tous ceux qui allaient dans le génie, qui allaient dans le matériel, etc., sont des personnes qui souvent ont acquis des compétences qu'elles ont ensuite mis au service de la collectivité d'une autre manière, au travers de leur métier. C'était un deuxième argument. Le troisième argument, c'était un argument complètement qui revient à la mode d'ailleurs, c'était le permis de conduire. parce que le permis de conduire coûte cher. Le permis de conduire, il y a un certain nombre de jeunes gens qui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient éloignés des centres urbains où il y avait les auto-écoles. Et lorsqu'ils allaient au service national, ils avaient 18 ans, donc l'âge où on passait le permis. Et là, ils avaient en fait la possibilité de passer le permis de conduire, donc d'avoir les épreuves préalables, mais ensuite de le passer à un coût nul, et qui leur permettait ensuite, quand ils sortaient du service national, eh bien d'avoir cette compétence-là, ce qui était utile pour leur emploi. Donc j'ai donné trois éléments, il y a encore d'autres éléments que je pourrais utiliser, qui poussaient à modifier, à moderniser le service national, mais pas à le supprimer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on l'a supprimé ? Ben parce que quand vous étudiez le service national dans les années 90-95, vous apercevez que petit à petit, il y a eu une dérive et que le brassage social a quasi disparu. Et c'est l'étude que j'avais faite et qui m'a amené à changer d'avis d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit que les 15%, j'allais dire du bas de l'échelle sociale, ceux qui ne maniaient pas bien le français, or c'était très souvent des gens qui étaient récemment devenus français parce qu'ils étaient arrivés en France avec leurs parents 20 ans avant, et ils maniaient mal le français. Il y en avait d'autres qui avaient une éducation assez frusque, et tous ces gens-là, en fait, étaient réformés ou en fait exemptés. Parce que comme à l'armée, on avait beaucoup moins besoin de gens, il fallait en fait exempter ou réformer un certain nombre de jeunes pour que l'armée puisse garder son équilibre et sa stabilité. Et il y avait à peu près 15% de ces jeunes qui étaient soit exemptés, soit réformés. Et ces jeunes, c'était tous ceux d'en bas, il y en avait d'autres dans les autres niveaux de la société, mais essentiellement ceux d'en bas, parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer facilement, et que l'encadrement considérait que ce n'était pas à eux d'être des moniteurs pour leur apprendre à parler français, pour leur apprendre à se tenir, pour leur apprendre à vivre en société au sens global du terme, et que c'était en fait à d'autres institutions de la République à le faire, et certes beaucoup pensaient d'ailleurs à ce moment-là, dès ce moment-là, à l'éducation nationale. Et donc ces 15%, ils n'étaient pas brassés, puisqu'ils étaient exemptés ou réformés. Et puis vous aviez 15% en haut, qui étaient en fait ceux qui faisaient partie d'un milieu social assez évolué, et qui connaissaient, qui avaient des relations, et qui, à partir de ce moment-là, profitaient du service national pour aller à des postes intéressants, soit professionnellement parlant, soit socialement parlant, et qui, en fait, devenaient les secrétaires des officiers supérieurs, se permettaient d'aller dans des obtenaient la nomination dans des écoles ou des régiments. Et ces 15%, ils avaient, en fait, des lieux, entre guillemets, privilégiés. Et que le brassage social n'existait pas, parce qu'en fait, quand vous prenez ceux qui étaient affectés dans ces postes-là, vous apercevez que la plupart sont d'un milieu social bien déterminé, qui est le milieu social plutôt cadre moyen ou cadre supérieur, c'est-à-dire le haut du panier de la société. Et puis il restait les 70% autres. Alors vous allez me dire, mais 70% autres, le brassage aurait pu se faire. Non, il ne se faisait plus, parce qu'à cause de l'affectation rapprochée dont je vous parlais tout à l'heure, car lorsque Debré, pour répondre d'ailleurs aux pressions de la jeunesse et aux pressions d'un certain nombre de syndicats d'étudiants, avait créé l'affectation rapprochée, c'est-à-dire il a en fait cassé le système du brassage, puisque les gens qui habitaient en Rhône-Alpes restaient en Rhône-Alpes, les gens qui étaient dans la région parisienne restaient dans la région parisienne, les gens qui étaient dans le Nord restaient dans le Nord, parce que l'affectation rapprochée leur permettait d'être rapprochés de leur lieu, soit de travail, soit d'existence, soit familial. Et qu'à partir de ce moment-là, on a remis en cause un des principes qui était le brassage social, tel que certains voulaient en fait le pérenniser. Donc pour ces raisons-là, la thèse d'un service national qui permettait véritablement de brasser la société et de faire que les gens se découvraient les uns les autres, soit géographiquement, soit socialement, soit professionnellement, etc., etc., était devenue en fait fausse. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui était presque la plus importante, c'est qu'on ne savait pas quoi faire d'un certain nombre de jeunes. Alors non seulement les exemptés, je vous en ai parlé, c'est les 15% d'en bas de la hiérarchie sociale, mais même les autres, on ne savait pas bien quoi leur faire, parce que l'armée était une armée qui, de plus en plus, était conquise par la technique, et qu'on n'avait plus besoin de bras comme on pouvait en avoir besoin 50 ans avant. Et à partir de ce moment-là, on s'est interrogé, et on s'est aperçu qu'on dépensait pour encadrer ces jeunes, pour leur faire faire des exercices, pour leur faire faire un certain nombre de manœuvres, que tout l'argent qu'on dépensait là, on ne pouvait pas le dépenser pour pouvoir, j'allais dire, former des techniciens au sens propre du terme, former des experts au sens propre du terme, et avoir une véritable armée qui soit à la pointe des techniques, que ce soit dans le domaine des armes, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine même de la conception de l'armée moderne. Quand vous allez dans tout le domaine atomique, par exemple, ben vous avez en fait des experts de très très haut niveau et qu'il faut bien les former. Et ces gens-là, il faut leur donner et la formation, et les moyens, et la compétence, et que ça coûte extrêmement cher. D'autre part, vous n'aviez plus en fait des avions classiques, vous aviez des avions qui étaient de plus en plus sophistiqués, vous aviez des bateaux, des sous-marins qui étaient de plus en plus sophistiqués, et tout amenait à l'armée de métier. Et c'est la raison pour laquelle on s'aperçoit que aujourd'hui, aucun pays, sauf des pays qui sont en état de guerre permanent comme Israël, ou des pays qui sont dans des systèmes, je vais dire, un peu dictatoriaux comme la Russie, aucun pays n'a aujourd'hui un service national au sens propre du terme, un service militaire qui est complètement universel. Ça n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très étonné de voir réapparaître en fait ce débat au moment des dernières élections présidentielles, parce que j'étais aussi étonné de voir qu'il y avait aussi peu d'hommes politiques pour faire l'analyse. Donc je vais la continuer avec vous, puisque moi personnellement j'ai eu le dossier en main, et qu'à partir de ce moment-là, il a fallu que je réorganise en fait l'armée française autour d'une armée de métier, et qu'est-ce qu'on allait faire en fait de ceux qui n'allaient pas entrer dans cette armée de métier. Alors, la première chose, c'est que l'armée de métier, c'est une armée de professionnels. C'est des gens qui en font leur profession. Et c'est des gens qui rentrent dans l'armée, qui, après avoir subi un parcours professionnel, un parcours éducatif, un parcours de formation. Alors, c'est les plus célèbres, c'est les polytechniciens, mais vous avez toutes les écoles que vous connaissez, que ce soit au niveau des aviateurs, que ce soit au niveau des marins, que ce soit au niveau du génie, que ce soit au niveau des transports, etc. Donc c'est une armée de professionnels. Et ces professionnels, il va falloir donc les rémunérer comme des professionnels, et il va falloir leur donner en fait un mode de vie qui leur permet d'assumer leur mission. Ils vont coûter cher, beaucoup plus cher que les soldats précédents. Et deuxièmement, la technique et le matériel coûtent extrêmement cher. Donc il va falloir constituer, reformater complètement l'armée. Ça a été fait dans les années 95, 96, 97. On a reformaté l'armée. Il y a beaucoup de régiments qui ont été supprimés. Ils ne servaient plus à rien. Il y a des régiments qui ont été recomposés, reconstitués. On a réformé aussi le système de formation. Et on a aussi même regardé tout le système de la reconversion du militaire professionnel quand il sortait de l'armée et comment il pouvait à ce moment-là se réintégrer dans la société civile. C'était un des grands volets de la réforme. C'était très lourd parce qu'il a fallu aller expliquer partout dans toutes les contrées qu'il y avait un régiment pourquoi on supprimait le régiment, par quoi on allait le remplacer. Et pour ceux qui ont connu cette période-là, Moi, personnellement, j'ai fait à peu près 120 réunions pour pouvoir expliquer ça. Et j'ai chaque fois étudié le dossier pour faire une reconversion qui était à la personne près. C'est-à-dire que lorsqu'on enlevait un régiment et qu'on enlevait les emplois qui étaient en conséquence, la plupart du temps, je trouvais un établissement militaire qui pouvait s'installer, où je cherchais avec les civils des établissements adaptés qui permettaient de rééquilibrer et de maintenir le territoire aménagé comme il l'était avant. Donc je crois que ça a été, je le dis, c'est pas parce que j'étais ministre à l'époque, mais je crois que le président Chirac a fait une grande réussite, car il n'y a pas eu de mouvements sociaux, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de critique de la part des élus, parce que ça a été fait d'une manière très très méthodique, et ça a permis en fait de passer de l'armée de conscription à l'armée professionnelle, sans qu'il y ait véritablement d'obstacles, à passer d'obstacles qui n'étaient pas... sans qu'il y ait de troubles, sans qu'il y ait eu de remise en cause. Donc voilà, ça c'était le premier temps. Alors ensuite, on s'est dit, mais il est possible qu'un jour, il soit nécessaire d'avoir des personnes en réserve s'il y a, par exemple, des troubles à l'intérieur du pays, s'il y a un autre type de conflit qui peut apparaître, du type conflit révolutionnaire, etc. Et c'est là où on a décidé, à l'époque, de mettre en œuvre une réserve qui est passée qui était à l'époque aux alentours de 60 000 personnes, donc c'était très faible. On a décidé de la passer progressivement à 400 000 personnes. Car quand vous prenez des grands pays comme les États-Unis, aujourd'hui ont quand même une grande responsabilité dans les interventions militaires, ils ont derrière eux une réserve qui est d'hommes et de femmes qui sont extrêmement bien formés et qui, quand il le faut, sont appelés pour venir supporter, suppléer, aider l'armée professionnelle. Donc en France, elle a été créée. Malheureusement, elle n'a pas été mise en place. Et que je pense que le rôle des futurs gouvernements sera de mettre en place cette réserve au sens technique, professionnel du terme. Parce que il faut que les gens qui rentrent de cette réserve, d'abord, puissent y acquérir des compétences. Deux, qu'ils puissent y trouver leur place pour pouvoir assumer leurs fonctions. Qu'ils puissent, à l'occasion d'un certain nombre d'événements, être appelés et puissent aller sur le champ d'intervention. Et on s'aperçoit que c'est nécessaire. Et je vais vous donner deux illustrations. C'est l'illustration actuelle où on voit en fait tous les soldats qui font du maintien de l'ordre et qui font de la surveillance. C'est l'opération Sentinelle. Et il serait 10 fois plus intelligent que ce soit des réservistes qui le fassent. Aujourd'hui, ce ne sont pas des réservistes, ce sont des soldats de métier. Et c'est là où on s'aperçoit que l'armée peut arriver à un point de débordement, parce qu'elle n'a plus assez d'hommes pour pouvoir faire face à ses missions essentielles, parce que nous, la réserve n'a pas été constituée assez rapidement pour pouvoir assumer ce genre de fonction. Ça n'empêche que lorsqu'on parle du service national, et que j'aperçois qu'aujourd'hui on parle beaucoup du brassage social, on oublie de parler de ça. C'est, la réserve peut être un lieu de brassage social, parce que là vous avez tous les milieux qui y vont, tous ceux qui ont envie, qui ont le goût du bien commun et qui ont envie d'aller servir leur pays, peuvent faire rentrer dans la réserve et à partir de ce moment-là, permettre en fait d'avoir une armée qui puisse se déployer sans que son arrière soit complètement dépeuplé. Donc ça, c'est très important. Et je crois que les futurs gouvernants de demain devront réfléchir à cela plus que à remettre en place un service universel qui soit une grande colonie de vacances. Il serait beaucoup plus intelligent aujourd'hui de mettre en place une véritable réserve comme elle existe dans un certain nombre de pays comme les États-Unis. Donc ça c'est une des réponses, mais c'est important parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs que les conflits sont en train de changer de nature, que les pays doivent être beaucoup plus sécurisés et qu'il va falloir trouver des méthodes pour sécuriser la population. Il suffit de voir les attentats se multiplier dans la plupart des pays du monde. Et hier, c'était en Nouvelle-Zélande. Avant-hier, c'était en Allemagne. Avant-avant-hier, c'était en France, etc. Partout dans le monde, vous avez en fait une insécurité qui exige en fait des réponses qui soient adaptées. Donc, ça, c'est l'aspect, j'allais dire, réforme du service national, mais sans oublier en fait les missions de l'armée. Donc, je les ai données. La première mission, c'est de la part des professionnels, c'est d'être à la hauteur des techniques modernes. Et la deuxième mission, c'est d'avoir la possibilité de répondre aux nouveaux défis qui sont posés. Et ça, ça exige d'avoir une réserve telle que celle que je viens de vous exposer. Alors, vous allez me dire, mais ça n'empêche que le problème du brassage social, il est toujours pas résolu. Et alors là, ma réponse à titre personnel, hein, je parle vraiment à titre personnel, c'est que ce n'est pas le rôle en fait de l'armée. Et que lorsque vous discutez avec des officiers, des sous-officiers, avec tout l'encadrement, ils vous répondent, nous, on n'est pas là pour pouvoir organiser le brassage social, on n'est pas là pour organiser une colonie de vacances. On est là, nous, pour pouvoir en fait permettre à la France de faire face à ces défis militaires et de pouvoir arriver à être capable et compétent. Et il dit, on est prêt à faciliter un certain nombre de choses dans le cadre de nos missions, mais on ne va pas en fait en plus, à côté, faire une armée de conscription pour simplement répondre à cet objectif qui est de permettre le brassage social et de donner l'idée du civisme à tout le monde. Et je crois que c'est eux qui ont raison, parce que je pense que le brassage social, comme le civisme, doit résulter d'autre chose, ça il doit résulter de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et que je pense que durant les années qui viennent, un des grands sujets des futurs gouvernements, ça sera de mettre en œuvre une véritable éducation populaire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? C'est l'éducation qui a été très développée durant les années 1920-1960. Elle était dans toutes les communes de France. Elle prenait des formes très diverses. Ça allait des colonies de vacances en passant par les camps de jeunesse, qu'ils soient scouts, éclaireurs ou autres. Ça allait des systèmes de mobilisation dans le domaine sportif et dans le domaine culturel, musical. Et on a vu se développer des grandes fédérations qui organisaient en fait le brassage social autour d'associations culturelles, sportives, musicales, historiques, etc. Et vous avez eu à ce moment-là véritablement le territoire qui était occupé par toute cette vie associative d'éducation populaire. Et puis ça a disparu avec la montée de l'individualisme, où on a vu les gens qui se sont retirés de ces types d'associations. Que je crois, moi, à titre personnel, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de manque dans la population et que le rôle de la collectivité, qu'elle soit collectivité nationale, que ce soit la collectivité territoriale, régionale, locale ou départementale, de mettre en œuvre une éducation populaire qui réponde au problème du brassage social, mais aussi de l'accession à un certain nombre de compétences. Et je vais vous en donner un certain nombre d'illustrations. Il y a des associations qui aujourd'hui sont à même de donner, à côté de l'éducation nationale et à côté des familles, des véritables compétences dans le domaine, par exemple, de la protection de la nature et de l'aménagement urbain, dans le domaine de tout ce qui est sportif et éducatif, et qui permet à ce moment-là d'avoir ce qu'on appelle des moniteurs, des encadreurs pour les mouvements de jeunesse. Et que c'est dans ce domaine-là qu'il y a une réflexion à mener pour voir comment on peut créer une véritable éducation populaire. Alors, ce sera ma conclusion, puis après je vous laisserai me poser des questions. Aujourd'hui, je pense que la France est arrivée à un équilibre. Il faut surtout que l'armée de métier soit renforcée, et que je pense que démission de Pierre de Villiers a attiré l'attention de tous les Français sur un sujet qui est important, c'est que notre défense a un coût. Et ce coût, il faut qu'on le porte, et que la France ne dépense certainement pas assez aujourd'hui pour pouvoir se défendre. Surtout si elle veut continuer à assumer ses missions traditionnelles en Afrique, où elle est attendue pour pouvoir intervenir. On le voit au Mali, on le voit au Tchad, on le voit en Centrafrique, on le voit dans toute la pays, tous les pays qui avant faisaient partie en fait de l'Empire français. Et la France est attendue. Et que si on veut que l'armée française puisse assumer ses fonctions, que ce soit sur le territoire européen, à travers son engagement dans l'Alliance Atlantique, ou aussi des régiments qui sont un peu spécialisés et spécifiques, et puis dans les pays avec qui on a des accords de défense, il va falloir en réalité expliquer aux Français qu'il faut faire un effort financier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on veut lutter contre l'incivisme qui est en train de se développer, la mise en cause du lien social, il va falloir avoir une véritable politique d'éducation populaire. Et ça va exiger, là aussi, des efforts. Je pense que cette politique d'éducation populaire, elle doit pas être mise en œuvre par un ministère quelconque. Elle doit être confiée aux collectivités territoriales, qui sont les mieux à même de pouvoir trouver les points d'adaptation pour pouvoir faire face aux besoins des gens. Pourquoi je pense que c'est les collectivités territoriales? Parce que je pense que dans certains cas, ça sera dans une région qui a une grande tradition au niveau des monuments et au niveau de l'histoire, ça sera une approche qui sera peut-être très historique. Dans un autre cas, ça sera une approche qui sera peut-être très touristique. Dans un autre cas, ça sera une approche qui sera mi-économique, mi-écologique. Et c'est tout le problème des forêts, le problème des vallées abandonnées, et qui mériterait en réalité que là, on ait en fait des mouvements qui se mobilisent pour pouvoir permettre de garder le trésor de notre nature et de notre pays. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, je vais vous laisser la parole, vous me posez des questions et j'y répondrai bien volontiers. Merci de m'avoir écouté.
Merci.